10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Bonjour à vous, bonjour à la nouvelle année, bonjour au nouvel indicatif de 10 minutes chronique. Pour ce premier numéro de 2024, je vous emmène dans une série consacrée à un auteur dont l'œuvre, qui a évolué au cours du temps, n'a jamais cessé d'interroger par sa singularité. Il s'agit de James Graham Ballard, plus habituellement nommé J.J. Ballard. Il y a presque un an, le 26 février précisément, on a déjà pu entendre la 135e de 10 minutes chronique, intitulée « J.J. Ballard, Vermilion Sounds ». Cet épisode évoquait une des 10 nouvelles du recueil Vermilion Sounds, dite « Au revoir, au vent ». Rafraîchissons notre mémoire. Vermilion Sounds est une station touristique au charme vénéneux où flotte le bizarre. Les activités les plus étranges y fleurissent, une folie feutrée y rôde et une oisiveté désenchantée peut s'y transformer en délire. Où situer Vermilion Sounds? Ballard lui-même a tenté d'y répondre. Loin de l'Angleterre, disait-il, quelque part entre Palm Springs et la plage d'Ipamena, ou bien Antibes, les plages méditerranéennes des années 60. Mais il ajoute, le nouveau paysage que je créais alors était en réalité une banlieue exotique de mon esprit. Voici ce que déclarait l'auteur en 1992 dans le journal The Independent. Les nouvelles qui composent ce recueil ont été écrites entre 1956 et 1970, et une fois qu'elles ont été publiées en un seul volume, je ne suis malheureusement jamais retourné sur ce terrain de jeu génial. En enfermant son imagination dans des couvertures rigides, on peut fermer à jamais la porte d'un monde privé encore très vivant. Je suis heureux d'avoir commencé ma carrière en écrivant des nouvelles, lorsque j'étais libre de courir après n'importe quel lièvre de passage, d'une manière qui n'est plus possible aujourd'hui, et sans trop m'engager sur une seule idée. Aujourd'hui, la fiction est dominée par des romanciers de carrière, enfermés dans des contrats de leurs éditeurs, comme des quinquagénaires prématurément encombrés d'hypothèques et de plans de retraite. Les responsabilités, en particulier l'agréable variété affichée dans Vermilion Sounds, a de nombreuses vertus négligées aujourd'hui. Avec le recul, il semble curieux que ma première nouvelle se déroule dans une station balnéaire imaginaire, aussi éloignée de la Grande-Bretagne grise et miteuse des années 1950 qu'il est possible de l'être sans quitter la planète. En 1956, j'avais passé 10 ans en Angleterre, mais je n'avais manifestement pas encore de véritables racines. Pour occuper leur journée hors du temps, les habitants de ma station balnéaire dans le désert se divertissent avec un certain nombre de jouets. Il y a des ordinateurs qui composent des poèmes, des bateaux de sable et des sculptures sonores qui semblaient être des fantasmes dans les années 1950, mais qui sont devenus réalité depuis longtemps. J'espère que mes autres inventions, comme les maisons sensibles à l'humeur de leurs propriétaires et les sculpteurs qui sculptent les nuages, suivront bientôt. L'une des histoires du recueil, Prima Bella Donna, a été la première œuvre de fiction que j'ai publiée. Et je me souviens encore de l'émotion que j'ai ressentie en recevant le chèque de 8 livres sterling. J'étais enfin un écrivain professionnel, et ma femme et moi avons fêté l'événement en utilisant l'argent pour acheter un nouveau landau à notre fils. En passant devant les grands magasins de Chiswick High Street, une centaine d'idées en tête, j'avais l'impression d'avoir trouvé la pierre philosophale. Prima Bella Donna. Je fis la connaissance de Jeanne Siracilides pendant l'intercalaire, cette dépression mondiale d'ennui léthargique et de chaleur estivale qui nous entraîna allègrement dans 10 années inoubliables. Et je suppose que ces circonstances influencèrent fortement ce qui se passa alors entre nous. Je ne peux assurément croire que je me rendrais aussi ridicule aujourd'hui. Mais il se peut aussi que cela ait tenu à la seule personnalité de Jane. Quoi qu'on ait pu dire sur son compte, tout le monde s'accordait à reconnaître que c'était une belle plante. Même si ses antécédents génétiques étaient quelque peu mélangés, les mauvaises langues de Vermilion Sands décidèrent bientôt qu'il y avait du mutant en elle, en raison de la patine somptueuse de sa peau dorée et de ses yeux qui ressemblaient à des insectes. Le narrateur Steve Parker vend à des clients fortunés d'étranges fleurs qui chantent, mimosas, azalées, en colis. La seule qui refuse avec entêtement et rage de chanter est l'arachnis. Parker l'a trouvée au rebut après avoir acheté sa boutique au précédent propriétaire. Il l'a gardée, mais ne peut utiliser cette fière et têtue orchidée que pour accorder ses autres plantes. Elle se dirigea vers un bac contenant des fougères et les contempla. Aussitôt, les fougères se tendirent vers elle en émettant des trilles liquides. « Comme elles sont mignonnes, » dit-elle, caressant doucement les frondes. « Elles ont tellement besoin d'affection. » Sa voix était grave, un souffle de sable frais avec un rythme musical. Lentement, les mains jointes devant les seins, comme en prière, elle se dirigea vers le présentoir où trônait l'arachnis. « Comme il est beau !» dit-elle, en contemplant les somptueuses feuilles jaunes et violettes qui entouraient le vibro-calice aux nervures écarlates. Je la suivis et allumai l'audio de l'arachnis pour qu'elle puisse l'entendre. Aussitôt, la plante s'anima. Les feuilles se raidirent, leur teinte s'accentua et le calice se gonfla, les nervures tendues. L'arachnis cracha quelques notes discordantes. « Beau, mais maléfique, dis-je. »« Maléfique ? Non, fière. » Elle s'approcha plus près de l'orchidée et se pencha pour contempler la corolle menaçante. L'arachnis frémit. Les épines de sa tige pointèrent et s'incurvèrent agressivement. Jane semble fascinée par l'arachnis. Elle voudrait l'acheter et entamer un duo avec la plante. Mais Parker lui dit qu'il ne la vendra pas parce que sans elle, les autres plantes ne peuvent pas chanter. Seul un mélange de produits chimiques ajoutés à son arrosage pourrait sans doute la faire changer d'avis dans une sorte d'ivresse et d'abandon. Mais Parker s'y refuse, de crainte de l'épuiser et la détruire. Jane enleva son chapeau et commença à monter la gamme d'une voix claire et pure. D'abord, les encolis hésitèrent, et Jane redescendit pour les entraîner à nouveau. Elles franchirent deux octaves, puis les plantes trébuchèrent et se perdirent dans une série d'accords en escalier. « Essayez K dièse, dis-je, rajoutant un peu d'acide chlorhydrique. » Les encolis suivirent aussitôt Jane, avec empressement et leur infracalice gazouillèrent en délicat trémolo. « C'est parfait, dis-je. » « Laissez-moi essayer l'arachnis, » suggéra-t-elle. « Ce serait un vrai défi à relever. » Elle n'avait pas cessé de fixer la fleur. Je me demandais ce qui se passerait si je le laissais en tête à tête. Essaierait-elle de rivaliser de vocalise jusqu'à ce que mort s'en suive ?« Non, » dis-je. « Demain, peut-être. » Jane est aussi obstinée que l'orchidée. Elle ne supporte pas les obstacles. Par exemple, elle triche au jeu de société, non pour gagner mais par principe. Chacune, de la fleur et de la diva, reconnaît instantanément l'autre comme une concurrente. Chacune ressent une antipathie féroce envers l'autre. Le résultat inévitable est un duel vocal et mortel entre Jane et l'orchidée. Les divas et les orchidées exotiques ont toutes deux la réputation d'être très capricieuse. Retrouvons-nous le 28 janvier dans Viva Culture sur Westrack Radio. À bientôt.
Chanter dans les voitures, assis à leurs fenêtres, cahoter sous les hêtres, rouler à vive allure, se réveiller trop tôt, siffloter tête nue sur des routes pentues qu'on dévale à vélo. sauter à trampoline, sauter de la balançoire, rigoler dans le noir, adorer ses cousines, embrasser en cachette quelqu'un d'imaginaire. Sur l'oreiller lunaire, il a des yeux noisettes. De grands cris, fusils.